Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous donne la paix. Je suis Francis Dor. Je suis un chrétien. Je suis Francis Dor. Je suis chrétien. Bien. Je suis un frère capucin, originaire du Cameroun, mais j'aime toujours me présenter comme étant du règne du Christ, parce que pour moi, cela c'est la base et ça suffit largement. Je vous remercie pour votre grand accueil. Je suis actuellement à Rome, dans notre curie générale, comme l'un des assistants spirituels pour l'ordre franciscain séculier. Je pense que cela, ça suffit. Alors, d'origine camerounaise, je suis de base de langue. Ma première langue, c'est l'amso. Bien. Et puis j'ai appris l'anglais à l'école et ensuite le français. Donc vous allez excuser ce qui n'est pas tellement français dans ma langue, dans mon expression. Vous m'avez demandé par l'intermédiaire de notre sœur Michèle Admaier de vous parler de Saint-Joseph, une personne qui m'a beaucoup fasciné et continue à me fasciner. Parler de Dieu, parler du Seigneur Jésus ou d'un saint, j'ai toujours une certaine crainte. Parce qu'il s'agit de parler des personnes qui sont ici présentes et qui se taisent dans leur humilité. Le thème s'est mûri en moi dans le contexte du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Alors, je vais tout simplement partager avec vous mon expérience avec Saint Joseph en espérant de lui faire honneur ainsi qu'à la bienheureuse Vierge, son épouse, et de glorifier Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et je prie aussi que ce partage de ce qui est encore en moi comme un balbutiement, d'un enfant, que ce partage vous soit utile pour votre cheminement de foi en Jésus-Christ, visage de la miséricorde du Père. Le Père Marie-Joseph, du bienheureux mémoire, fondateur de la fraternité franciscaine séculière de Bitche, et dont la cause de béatification a déjà été lancée pour la raison pour laquelle je dis aussi personnellement merci à notre frère Eric, mais faire reconnaissance de sa présence ici. Vous savez, pour l'ordre franciscain séculier, l'assistance spirituelle et pastoral est tout d'abord leur responsabilité, est confiée par l'Église à notre frère Eric, comme supérieur majeur des Capucins en France. Alors nous, les assistants, nous sommes leurs délégués. S'ils nous disent non, on le fait. On travaille à l'heure selon leurs indications. J'aimerais aussi reconnaître la présence de notre frère André Menard, qui est actuellement assistant de la fraternité de Beach ici, l'un des assistants ici en France, et leur dire merci pour le travail qu'ils sont en train de faire, le service qu'ils sont en train de rendre à nos frères et sœurs de l'ordre franciscain séculier. Merci au frère Eric pour d'avoir pris en charge dans ses mains cette œuvre. Il dit c'est audacieux. La parole que tu as utilisée, c'est que c'était osé, non? Ce procès pour commencer, on ne sait pas où ça va nous conduire, mais dans l'esprit de foi, dans la foi, il a entrepris le travail. Pour un père, selon ce que j'ai entendu, selon le partage qui a beaucoup fait pour l'ordre franciscain séculier ici à Beach, et dont les vagues continuent, les fruits continuent, la fraternité de Beach continue à porter ses fruits. C'est l'œuvre d'un saint frère. Le père Marie-Joseph a conduit, il a eu une grande dévotion pour Saint-Joseph, comme nous avons bien entendu de notre sœur Thérèse, et dont vous êtes bien, beaucoup d'entre vous qui l'avez connu personnellement, vous êtes des témoins. Alors, ce n'est pas à moi de prétendre de vous le dire. Ce que nous avons entendu de la sœur Thérèse, ce que vous connaissez, puisque c'est l'Esprit du Seigneur qui nous conduit, les éléments viendront seulement à s'éclaircir. Dans les lettres de Père Marie-Joseph à sa sœur, j'en ai lu quelques-unes, il l'exhortait souvent à prier aussi Saint-Joseph. Notre frère qui a présenté le film l'a dit, il n'a pas trouvé tellement d'éléments dans ses écrits, dans ses paroles. C'est juste, dans les évangiles, on n'en trouvera pas trop d'éléments sur Saint-Joseph. Ce n'était pas à Père Marie-Joseph de les inventer. Alors, mais c'est suffit pour Saint-Joseph, ça suffit toujours une indication. Pour voir une personne qui fait attention à Saint-Joseph. Il avait beaucoup de dévotion à lui. Il invitait toujours sa sœur à prier aussi Saint-Joseph. Tout de suite, après, la Sainte Vierge Marie, très souvent, il indiquait, prie aussi Saint-Joseph. C'est par la providence divine que nous sommes rassemblés ici autour, dans la fête de Saint-Joseph. Au moment où la cause de béatification de Père Marie-Joseph vient d'être lancée, qu'il nous soutienne aussi par sa présence paternelle. Le thème qui s'est muré en moi dans ces jours, c'est miséricordieux comme le Père, Saint-Joseph, icône du Père. Je vais remercier nos frères qui ont mis cette icône ici en ce moment. C'est la Vierge. Mais c'est une icône. Et notre thème a deux parties. Miséricordieux comme le Père et Saint-Joseph, icône du Père. La première partie est le thème sous lequel nous sommes en train de vivre l'année de la miséricorde. C'est un moment où nous sommes appelés à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signes efficaces de l'agir du Père. Mais Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Donc nous sommes appelés à fixer notre regard sur Jésus-Christ. Étymologiquement, miséricorde signifie ouvrir le cœur à la misère. Et Dieu est par excellence celui qui ouvre son cœur aux misérables. Ainsi, le pape François nous permet de dire que la miséricorde, c'est la carte d'identité de Dieu. C'est d'ailleurs ainsi que Dieu se présente à Moïse. Dieu tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. J'en passe. La deuxième partie du thème, Saint-Joseph, icône du Père, est parce que l'icône est une image qui révèle et cache en même temps. Ce n'est pas une photo. Ce n'est pas un dessin classique. C'est un dessin qu'il faut savoir lire. On lit les icônes, non? Dans le langage technique, on lit les icônes. Et j'aimerais demander à ma sœur Thérèse de m'offrir le passage qu'elle nous a donné sur la contemplation des images dans les saints. Elle vient de nous lire un très beau passage. Les personnes sont capables de percevoir l'essentiel dans une image qui peut-être n'est pas très beau artistiquement dans les statues, dans les icônes, c'est tout. Alors j'ai dit, on va contempler Saint Joseph en tant qu'icône du Père, une image qui révèle et cache en même temps. Et pour l'apprécier une icône, il faut le contempler selon des règles particulières. Ainsi, nous voulons contempler la miséricorde du Père par Saint Joseph, qui le révèle tout en le cachant. En ce moment, nous allons considérer trois thèmes. Le Père dans la Bible. Ensuite, Joseph, fils de David, la miséricorde dans notre histoire. Et en troisième lieu, pour cette soirée, nous allons considérer Joseph, époux de Marie, la miséricorde et le mariage. Le Père dans la Bible. Je pars de ce passage qui est un peu peut-être contradictoire. Jésus dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites « Père ». Luc, chapitre 11, verset 2. Quelque chose de personnel. Je suis né dans une famille chrétienne. Une famille de 8 enfants. Et nous sommes tous baptisés dans l'enfance. J'ai été baptisé le lendemain de ma naissance. Et dans ma famille, on avait toujours la prière. L'unique prière qu'on faisait en famille, c'était la prière avant le repas. D'autres prières, on n'en avait pas. Le dimanche, on allait à l'église, bien sûr. Mais la famille était restée là. Prière très petite, avant le repas. Quand j'avais 9 ans, je suis allé avec une tante et là, j'ai appris à prier le chapelet. De 9 ans ensuite. Et dès lors, le chapelet ne m'a jamais laissé. Et pour beaucoup d'années, dans ma jeunesse, le chapelet était mon unique prière. Même si j'allais à la messe, mais je n'avais aucune relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Moins encore avec Dieu le Père. La Vierge était à mes côtés. Et c'est elle qui continue toujours à me porter. Mais il est arrivé un moment où la Vierge m'a conduit au Seigneur Jésus. Surtout, c'était à travers le sacrement de la réconciliation. Dans ma jeunesse. Et le Seigneur Jésus m'a conduit doucement au Père. Et c'était déjà, j'étais au début de ma vie religieuse, que j'ai appris le sens d'appeler Dieu Père, notre Père. Alors j'ai compris que la Vierge Marie nous conduit à Jésus et Jésus nous conduit au Père. Dans la Bible, le véritable Père, c'est Dieu. Je vais donner seulement quelques indications. Le véritable Père dans la Bible, c'est Dieu. Genèse 4, 1, on peut en lire. Dans l'histoire de Adam et Ève, quand Ève conçoit pour la première fois, elle dit, « Ah, j'ai eu un homme grâce à Dieu. » Elle reconnaît. Avec Dieu, elle, la parole même dit, comme j'ai acquis un homme par Dieu. Il y a beaucoup de passages. Les pères de famille ont un rôle fondamentalement vicarial, car les enfants sont un don du Très-Haut. On en trouve en beaucoup de passages dans l'histoire. Et les pères participent à l'unique paternité de Dieu. Ils sont les garants de la fidélité de Dieu. On peut lire dans l'histoire d'Abraham, à Jacob et ses enfants. On va descendre. Et alors, Saint Joseph apparaît vraiment au bout du fil comme véritable couronnement de paternité dans la Bible. Celui qui représente le Père. Alors quand il se fait Père du Seigneur Jésus, il l'accueille comme son enfant. Voilà l'image du Père dans la Bible. Joseph est le couronnement de ces personnages qui sont dans les vies des personnes, dans notre vie, dans les vies des individus, comme les icônes du Père. Ceux qui doivent présenter au monde l'image du véritable Père de tous. Il y a un moment dans la vie où la mère introduit l'enfant à son père et lui apprend à dire « Papa », n'est-ce pas? Réfléchissons un peu à notre histoire personnelle. Le moment où la maman introduit l'enfant à son père et apprend à l'enfant à dire « Papa ». Même sans le comprendre, l'enfant le dit sans le comprendre. À son âge, les premières paroles. Et les psychologues expliquent que c'est là la raison pour laquelle, presque dans toutes les langues, non, les paroles pour dire maman, papa sont les premières paroles de l'enfant, non? Parce que les premières paroles, on peut seulement dire maman, papa. Maman, papa. Et dès, vous qui avez des enfants, vous pouvez imaginer quel avait été votre sentiment quand pour la première fois, votre fils, votre fille a dit papa. Quelle joie, quel sentiment. C'est la relation se renaît, n'est-ce pas, de cet enfant que vous avez accueilli peut-être dès le sein de la mère. Voilà la relation. Et que le Seigneur Jésus nous enseigne à dire papa. Que nous le disons, peut-être sans le comprendre, quand nous disons notre père. Nous sommes comme ces enfants qui disent papa, papa. Et ça fait la joie du Père. Le véritable Père, c'est Dieu. Joseph était véritable Père du Seigneur Jésus. Je passe au deuxième thème pour toucher seulement quelques éléments qui ont poussé à recontempler bien le visage de Saint Joseph. Comme nous savons des évangiles, qu'il a accueilli le Seigneur Jésus. Il a été appelé à accueillir le Seigneur Jésus conçu par l'Esprit Saint, comme un père. Joseph, le fils de David, je vais contempler Joseph dans son histoire. Et à travers lui, que nous puissions contempler la miséricorde de Dieu dans notre histoire. Dans ma jeunesse, encore une petite histoire personnelle, je lisais de tout, sauf la Bible. La manière qui nous a été introduite pour lire la Bible, c'était lire un passage, trouver un mot qui te touche et méditer là-dessus. Je trouvais cela insupportable, très lourd. Et à la fin de mes lectures d'un passage, je me trouvais toujours vide. Alors, mais à moi, ça me plaisait des histoires, des romans, tout cela. Mais le Seigneur m'a conduit, il m'a piégé à travers les livres historiques de la Bible. Le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de Ruth, les livres dits historiques de la Bible. Je suis tombé là-dessus et j'étais vraiment pris, saisi par ces histoires de personnes. Parce que dans ces livres historiques, qu'est-ce qu'on trouve? Des personnes comme vous et moi qui mènent leur vie simple, ordinaire, sans des choses extraordinaires de manifestation de Dieu. Mais qui sont peut-être à la fin de la journée, à la fin de leur vie, sont capables de percevoir comment Dieu leur conduisait. C'est l'histoire de Tobie. C'est l'histoire de Esther. Mais on trouve dans ces personnes des personnes de foi qui font confiance en Dieu dans leur vie ordinaire. Et alors, ces livres historiques m'ont aidé à relire mon propre histoire, à percevoir Dieu ici, aujourd'hui, présent parmi nous, agissant parmi nous. Dieu qui me conduit chaque jour, c'est surtout à travers ces livres historiques de la Bible que je suis parvenu à lire d'autres passages de la Bible, même les évangiles, à savoir percevoir la présence de Dieu, la main agissante de Dieu, peut-être dans chaque parole des Saintes Écritures. Mais à travers mon amour de la lecture courante, voilà qu'on parvient aussi dans l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, apercevoir comment Dieu agissait dans son histoire avant sa naissance. Il est écrit sur l'origine de Saint Joseph. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, et on continue, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Voilà une histoire peut-être banale, même dans laquelle on retrouve des homicides, non? Et des infidélités dans le mariage. Mais la main de Dieu qui conduit l'histoire jusqu'à cet homme-là. Les paroles du prophète Jérémie sont clairement accomplies en Joseph, où le prophète Jérémie dit « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. » C'est bien accompli à Saint-Joseph. Et l'évangile de Luc remonte bien plus loin. Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Il était fils, croyait-on, de Joseph, fils de Élie, et il continue, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà l'évangile de Luc. Il remonte de Joseph jusqu'à reconnaître que Joseph était fils de Dieu. La lignée qui remonte jusqu'à Dieu. Donc, bien chers frères et sœurs, Dieu est présent dans l'histoire et guide l'histoire des hommes. Dans sa grande miséricorde, il est présent. Il guide. Et nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ceci est directement visible, donc on vient de voir, dans la généalogie de Saint Joseph. Personne d'ici, entre nous, est ici par hasard. N'est-ce pas? Personne. Parfois, j'entends des personnes dans les familles, surtout quand on parle des enfants indésirés, non? Des enfants qui sont venus par hasard, accident. Pour les hommes, cela peut se faire. Mais même dans ce cas, est-ce qu'on est capable de percevoir comment Dieu nous fait participer dans son plus grande œuvre de création, nonobstant nous-mêmes, à notre insu? C'est ce qui change notre vie. Nous avons tous et chacun une identité qui remonte bien jusqu'à Dieu, comme Saint-Joseph. Cette identité, et je le déclare, vous êtes des dieux, dit la parole de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le psaume 82. Il n'y a pas d'autre identité pour laquelle se vanter plus que celle d'être fils du Très-Haut. Je vous assure, bien chers frères et sœurs, je célèbre chaque année mon anniversaire de baptême. Ce jour où, à mon insu, mes parents m'ont baptisé. Grâce à leur foi, je la célèbre pour dire merci au Seigneur. Et récemment, le pape François invitait tous les religieux et les religieuses à regarder le passé avec gratitude, vivre le présent avec passion et d'embrasser l'avenir avec espérance. Vivre, regarder le passé avec gratitude, c'est quoi? Mon avis, c'est savoir percevoir la main de Dieu dans mon passé, mon histoire, comme une œuvre de Dieu. Tout d'abord, dans toute mon histoire, l'œuvre de Dieu, comme il me conduit. Et Saint-Augustin, je partageais hier avec mes frères et sœurs, Saint-Augustin qui disait de lui-même, « Ah, c'est toi, Dieu, dans ta bonté, dans ta miséricorde, qui me conduisait, même dans ce moment de vagabondage, c'est ta main qui me conduisait au port que tu désirais, dans un avenir que tu avais préparé pour moi. » En Jésus donc, nous devenons véritablement fils de Dieu. Et Saint François, il dit ceci dans son testament. Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence. Comme j'étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je fis miséricorde avec eux. Et en m'éloignant, en m'en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour moi en douceur de l'esprit et du corps. Voilà, Saint François, un moment qui est capable de regarder dans son passé et de voir comment Dieu lui-même l'a conduit dans cette ambiance parmi les lépreux où il n'osait pas aller. Il perçoit que c'est Dieu qui l'a conduit là. Il a découvert la douceur du corps et de l'âme. Alors, il a entrepris le cheminement, la vie de pénitence, parce que c'était doux, parce que c'était beau, parce que c'était belle, parce que ça lui faisait du bien, être parmi les lépreux. Je considère avec vous un petit point encore Joseph, fils de David. La figure de Joseph, qui est l'unique, il est le seul à être appelé fils de David par un ange dans les évangiles. C'est Joseph. Et il est le seul à être appelé par un ange. Mais sa figure, alors comme fils de David, nous porte un peu à considérer aussi la relation entre la miséricorde et la justice. Il y a un moment dans l'histoire, dans la vie du roi David, où on voit bien sa miséricorde. Vous rappelez l'histoire de David avec son fils Absalom. Le fils de David qui cherchait à le tuer, qui se levait contre son père pour prendre le pouvoir, pour prendre le royaume. Le moment que ce fils meurt dans la guerre, on vient reporter à David l'histoire, ce qui s'est passé. Et David se mit en larmes. Il pleure. Mon fils Absalom, mon fils. Pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Voilà un cœur de père. Père de miséricorde. Que ce qu'un fils peut faire, nonobstant la gravité de la chose, cela n'arrache, ne peut jamais enlever sa qualité d'être fils. Parce que le Père est toujours Père. Le Père ne peut pas renier à sa mission d'être Père. David a démontré à ce moment-là qu'il était tout d'abord Père. Et voilà le visage de la miséricorde du Père. C'est le pardon, c'est la miséricorde. 5 minutes, merci. Et voilà que Saint Joseph, comme fils de David, nous présente aussi cette image, cette figure. On ne va pas chercher par-ci, par-là où le Seigneur Jésus l'a offensé. Non, mais il est fils de David. Donc, celui qui incarne en ce moment-là, en ce moment précis de son histoire, la figure de David. Figure de miséricorde. Un roi miséricordieux. Un papa miséricordieux. Il est dit de Saint Joseph, un petit coin, petit point à considérer. Joseph, son époux, était un homme juste et il ne voulait pas défamer publiquement son épouse. Il résolut de la répudier secrètement. Voilà que dans un moment très critique de la vie conjugale, Joseph s'abandonnait à Dieu. Il s'abandonnait à Dieu. Et le pape François enseigne que dans l'Écriture, la justice est essentiellement conçue comme un abandon à Dieu. Dans des moments difficiles, Joseph s'abandonne à Dieu et il nous enseigne aussi dans le sein de nos familles, au sein de nos familles, à nous savoir abandonner à Dieu. C'est la miséricorde. Joseph, époux de Marie, en deux points. Ça, j'ai l'impression que, oui, nous avons encore beaucoup à faire pour redécouvrir aussi la figure de la Vierge Marie comme épouse. Partie de là. Saint Joseph reste trop caché, à mon humble avis. On doit la redécouvrir. Et mon attachement personnel à la figure de Saint Joseph, j'aime bien partager à mes frères et sœurs, c'est parti de cette reconnaissance que même dans le domaine de la théologie, il manquait toujours ce thème de la Vierge comme épouse. On va rattacher beaucoup plus la Vierge comme épouse du Saint-Esprit. Et Saint-Joseph n'apparaît pas. Il y a des raisons historiques. Mais cela, aujourd'hui, nous sommes portés à aller au-delà, à découvrir la réalité de la Vierge, parce qu'elle est mystère aussi, non? Et le mystère, c'est cette réalité que dans laquelle on peut entrer, il y a toujours du nouveau. Que veut dire en Dieu être épouse? Que veut dire, selon Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la révélation, être époux? Voilà Saint Joseph. Quand Dieu lui dit, ne crains pas de prendre ton épouse, Marie, ton épouse. Ne crains pas. Alors, Joseph, époux de Marie, nous porte aussi dans l'élément de la miséricorde dans le mariage. Comment ils ont vécu leur mariage. Alors, pour les époux, le mariage, nous savons tous ça, non? L'enseignement de l'Église sur le mariage. Ce n'est pas à moi de le revenir dessus maintenant. Nous savons tous, non? Et fondement de la famille. Et bref, le mariage et la famille sont d'institutions divines. Et que le mariage est un sacrement, c'est-à-dire signe et instrument de l'union intime avec Dieu. Non? Quand on dit sacrement, c'est signe et instrument. Donc, à travers ce sacrement, ce fait, cet acte que tu poses, ça te portera dans l'union intime avec Dieu. C'est le sacrement. En le vivant chaque jour, ça te conduit à l'union intime, que c'est le grand désir de l'homme, de tout homme. Alors, pour les époux, le mariage signifie et réalise la communion intime avec Dieu. Pouvons contempler Joseph et Marie, avec Jésus au milieu, qui concrétise pour eux cette union avec Dieu. Et donc, Jésus, entre Marie et Joseph, c'est la miséricorde incarnée, parce qu'ils ont embrassé cette réalité avec tout leur cœur, prêts à mourir pour ce fait que Dieu le veut. Nous venons de vivre un moment particulier de grâce pour la famille, le synode des évêques sur la famille. Et sous le thème, la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain. Et nous attendons encore l'exhortation du Saint-Père qui devrait fournir les orientations pastorales pour la famille aujourd'hui. Mais nous avons déjà à notre disposition le rapport final des pères synodaux. Et ce synode, deuxième de son genre, exprime la grande sollicitude de l'Église pour la famille, Église domestique fondée sur le mariage. Et je veux vraiment saluer de façon particulière toutes les familles présentes ici. Vraiment, un applaudissement pour les familles. Et je termine à ce moment de partage avec... On va en arriver. Pour les pères. Mais pour les familles, c'est père, mère, enfant. Merci Marie. Alors elle nous permet de prendre encore 2 minutes de plus. Comme ça, demain, à la fin de la deuxième partie, on aura le temps de partage. Alors je prends ce passage d'un écrit, je dirais, peu connu, qui est un encyclique du pape Léon XIII, Humanum Genus. Parce que l'année dernière, nous avons publié sur le site, dans notre revue Koinonia, des articles sur la famille. Et j'ai pris un article sur... Hey, je vous en prie, on va. Alors, le pape Léon XIII, vers la fin du 19e siècle, donc, il a publié cette lettre encyclique Humanum Genus sur la franc-maçonnerie, dans laquelle le souverain pontife dénonçait les dangers de la doctrine naturaliste reçu par les francs-maçons et que la société accueillait avec enthousiasme et sans discernement. Et à plus d'un siècle de distance, on comprend mieux ce que dénonçait le Père, ce que dénonçait l'Église. On regarde à plus d'un siècle de distance. Et dit, selon cette doctrine, le mariage n'est rien d'autre qu'un contrat civil qui peut être résilié légitimement à la volonté des contractants. Le pouvoir sur le lien matrimonial appartient à l'État. Dans l'éducation des enfants, on n'impose aucune religion. Une fois que l'enfant a grandi, que chacun soit libre de choisir celle qui lui plaît le plus. Maintenant, les francs-maçons acceptent ces principes sans réserve. Et non seulement ils les admettent, mais ils les étudient depuis longtemps Elle cherche à les faire passer dans les coutumes et dans l'usage de la vie. En beaucoup de pays aussi, qui se disent catholiques, ils tiennent pour nul le haut regard de la loi, les mariages qui ne sont pas célébrés civilement. Ailleurs, les lois permettent le divorce. Et partout ailleurs, on fait tout pour que le plus tôt possible, le divorce soit permis. On cherche, il dit, alors c'est, je m'arrête là pour voir, disons, le regard longanime de l'Église. On cherche au plus vite à dénaturer le mariage et en le réduisant à des unions transitoires et passagères et se former et se dissoudre comme un jeu. Voilà, c'est ce que le pape disait déjà en 1893. Et on voit de distance la réalité. Et quand j'étais dans la pastorale, quand je trouvais un parent qui disait mon enfant, je le tiens, quand il sera grand, il va choisir son église, je lui ai dit, mais je vous donne un conseil. Cet enfant ne la nourrit pas non plus. Ne leur donnez pas de vêtements. Quand ils seront grands, ils vont choisir de quoi manger, ils vont choisir de quoi se vêtir. Alors, avec cette pensée, retournons notre regard vers la grâce du mariage, vers la grâce d'être père, vers la grâce d'être de notre descendance. Regardons notre passé avec gratitude, car c'est toute l'expression de la miséricorde de Dieu. Le être père, que nous soyons le fils, soit le fruit de notre sein, que ce soit un fils adopté, que ce soit un fils, on dit quoi? Mais toi qu'on appelle père, tu as cette mission de présenter le visage de la miséricorde du véritable Père. Loué soit Jésus-Christ.